Il est plus que probable qu'à l'annonce du gagnant du trophée du meilleur défenseur de l'année, la NBA annonce un intérieur. Pourquoi me demanderez-vous? Car la NBA ne récompense pas les extérieurs. Depuis la création de ce trophée, les vainqueurs ont plus souvent régné sur la raquette que sur les lignes extérieures. Cependant, à l'ère où le jeu s'écarte vers la ligne 2-3 points, ces décisions commencent à faire grincer des dents, à commencer par les premiers concernés, les extérieurs défenseurs. Vous écoutez un nouvel épisode du Carton, votre podcast basket préféré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Carton. On se retrouve pour 12 nouvelles minutes pour parler de notre ligue préférée. À ma gauche aujourd'hui pour nous accompagner sur ce Carton, même si pour la plupart d'entre nous, nous sommes assez petits vis-à-vis des joueurs NBA, notre chroniqueur ressemble plus à Tyron Bugs à côté de nous. Et même si physiquement il est petit, son talent est encore plus grand que Muggsy. Bienvenue Benjamin.
Bam, dès l'intro tu kiffes, vraiment comme d'habitude. Encore un plaisir d'être là pour ce nouveau Carton.
Ah, c'est le retour du groupe de rap le moins productif. De l'autre côté, pour son troisième match avec nous, il tentera de devenir aussi fort que le meilleur défenseur de la Ligue, fort sur les appuis comme Rudy, aussi agile que Yanis et aussi hargneux que Pat Beverley, et forcément un Pat Beverley au top de sa forme. Bienvenue, Hugo.
Merci beaucoup pour la petite intro. Je sais pas trop comment je dois prendre la comparaison avec Patrick Beverley, mais ça fait toujours plaisir, très content d'être là pour parler basket.
Et tu vas voir que la petite comparaison va avoir son intérêt, puisqu'on va revenir cette semaine sur un sujet qui nous a un peu tapé dans l'œil, et notamment suite à une déclaration du fameux Pat Beverley, qui nous a distillé encore une petite phrase dont seul lui a le secret. Il a déclaré dans un tweet, je le cite bien sûr, « Assez, c'est assez, avec une moyenne de 1 contre et 1 interception ». Top 5 des charges subies, une équipe de play-off cette année et toujours aucun crédit pour le défenseur de l'année. Il a laissé bien sûr après un petit message un peu plus imagé. Mais dans l'idée, c'est vrai que pour tous, Pat Beverley est un bon défenseur. Malheureusement, le trophée de DPOY n'a jamais orné sa cheminée. Et on pourrait se poser une question en fait, qu'est-ce qui se trame dans les bureaux des responsables NBA? Pourquoi un Pat Beverley n'aurait pas de DPOY? Est-ce qu'il subirait une chasse à l'homme qui ne verrait pas son nom sortir du chapeau? Ou est-ce qu'au final, les petits sont toujours déjugés par rapport aux grands dans la ligue? On a regardé dans l'histoire et seulement 7 joueurs ont remporté le titre de défenseur de l'année sans être considérés comme un intérieur. C'est assez énorme quand on voit depuis combien d'années ce trophée existe. Alors pour commencer, je vais me tourner vers toi Benjamin. Est-ce que pour toi, la place des défenseurs petits est assez reconnue dans la ligue ou justement est-ce qu'elle n'est pas assez reconnue?
Concrètement, tu l'as bien dit, il y a eu très peu de défenseurs extérieurs qui ont gagné le DPOY. Si on prend depuis 89, c'est encore pire. On voit que Gary Payton l'a gagné en tant que meneur. Kawhi et Meta World Peace, en ont gagné 3 à l'aile. Mais en gros, 29 trophées de DPOY depuis 89 sont allés à des intérieurs. C'est 88% des trophées. Donc les extérieurs ont 12% du gâteau. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème. En fait, il y a un paradoxe aujourd'hui dans l'évaluation du niveau défensif en NBA. Les équipes, elles cherchent à recruter des joueurs qui sont polyvalents en défense, qui peuvent couvrir plusieurs postes. Ils cherchent des postes 3, des postes 4, capables de défendre partout. Et c'est vraiment des profils très recherchés. Et pourtant, on donne toujours, ou très souvent, le DPOY à un joueur qui a un profil plus de rim protector. En fait, il y a une forme d'incohérence quand même là-dedans, parce que c'est bizarre que quand même les équipes valorisent la polyvalence défensive et beaucoup moins les votants et les fans. Et d'un autre côté, l'attaque tourne beaucoup plus autour du 3 points. Et pourtant, encore une fois, on fait vraiment très peu attention à la défense sur la ligne extérieure. Donc j'ai l'impression que les défenseurs extérieurs sont très estimés au sein des franchises NBA parce qu'ils jouent un rôle très important. Mais dans l'opinion publique, on est plutôt team intérieur.
Mais c'est assez intéressant justement ce que tu relèves. Comme tu dis, depuis quelques années, et surtout avec l'arrivée de certains joueurs, notamment comme Steph Curry, le jeu s'éloigne, on va dire, de la raquette. Même si parfois, il y a forcément un jeu intérieur qui est assez important, et on le voit avec des pivots qui essayent toujours de dominer dans la raquette, mais ces pivots sont de plus en plus capables de stretch, et donc de s'éloigner de l'arceau. Comment, en fait, forcément, on va ici chercher, par exemple, un profil comme Yanis, il est capable de descendre avec sa mobilité, il est capable de défendre aussi, sur ces joueurs qui vont essayer de stretch un peu plus loin de l'arceau, mais aussi il est capable de défendre bien sûr la raquette. Pour toi, Hugo, est-ce que tu es du même avis que Benjamin? C'est-à-dire que fondamentalement, en fait, les franchises sont plus intéressées par des profils un peu polyvalents plutôt que les votants et au final la NBA qui va valoriser les profils qui sont vraiment des intérieurs défensifs. Pour le trophée du Deep Boy, bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est assez incohérent puisqu'on sait que maintenant, vraiment, ce qui est recherché, c'est avant tout la polyvalence, qu'elle soit offensive, mais du coup ici défensive. On recherche surtout des défenseurs capables de défendre pour les défenseurs, pour les grands défenseurs capables de défendre sur des postes 3 jusqu'au poste 5. On voit par exemple que un Draymond Green, par exemple, grâce à sa petite taille, mais en jouant intérieur avec sa puissance et son intelligence dans le placement défensif, il peut clairement défendre du poste 2, voire même de certains postes 1 jusqu'au poste 5. Donc on recherche vraiment cette polyvalence défensive. Pourtant, comme l'a très bien dit Benjamin, le trophée il est plutôt réservé, même quasiment tout le temps réservé à des rim protecteurs, des grands intérieurs, tour de contrôle. Puis Benjamin, il a dit quelque chose d'aussi intéressant quand il a parlé de Gary Payton, qui est le seul meneur de jeu pur à avoir remporté le titre de Deep Boy. Ça démontre déjà juste que le poste auquel le joueur joue, c'est déterminant dans la tête du votant et déterminant pour gagner le titre, en fait.
Mais justement, comment expliquer cette si grande disparité? Est-ce qu'on voit ça plus sur un plan purement statistique? C'est-à-dire qu'on va faire attention au rebond, on va faire attention au contre. Alors, et forcément, il y a le côté aussi dissuasif. On voit un joueur comme Rudy Gobert a le taux de dissuasion dans la raquette le plus important de la ligue. Est-ce que ça joue dans la tête des votants? Ou est-ce qu'on va chercher, voilà, comme voilà, je répète un peu ce qu'a dit Pat Beverley, mais le côté interception, le côté des défenseurs qui vont subir des charges. On sait qu'un profil comme Marcus Smart, assez intelligent aussi sur la capacité qu'il va avoir pour défendre les attaquants, est assez recherché. Pour toi, Benjamin, qu'est-ce qui fait cette différence au final dans la tête des votants?
Pour moi, il y a vraiment deux choses. Et la première chose, c'est la plus simple à expliquer, donc je vais commencer par là. C'est la réputation. J'ai l'impression, et d'ailleurs certains journalistes qui votent pour le trophée sont explicites là-dessus, la réputation joue un rôle dans le vote final pour le Deep Boy. C'est-à-dire qu'un joueur qui a une réputation d'expert défensif aura beaucoup plus de chances de gagner le Deep Boy. Et c'est ce qui fait que des profils comme Evan Mobley, par exemple, qui est rookie et qui construit sa réputation, a du mal à entrer dans la course. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu vraiment sur un article de The Athletic de la part d'un votant au trophée, en tout cas qui était votant l'année dernière. Et du coup, c'est plus simple, forcément, en tant qu'intérieur, de construire une réputation de défenseur solide quand on met des contres, quand on arrive en aide défensive, quand on est vraiment dissuasif. Et ils construisent plus facilement, en fait, une image de fort défenseur. Donc, il y a ce premier point qui est un petit peu accessoire. Et surtout, il y a les stats, ce que tu as très bien dit. Déjà, il y a le rebond. Je ne sais plus qui disait ça, mais un rebond, c'est ce qui clôt une action défensive. Et c'est vrai, tant qu'un joueur n'a pas pris le rebond ou intercepté le ballon, c'est vrai, mais c'est plus rare, le travail défensif n'est pas terminé puisque l'adversaire a toujours la possession. Donc on peut pas dire que cette stat ne compte pas, elle est très très importante, comme les interceptions encore une fois, mais bon, là où un bon défenseur va prendre 15 rebonds, un bon défenseur extérieur va prendre plutôt 2 interceptions, donc en termes de volume c'est pas tout à fait comparable. Et du coup bien sûr, les défenseurs qui prennent des rebonds sont valorisés, mais d'un autre côté il n'y a pas besoin d'être un bon défenseur pour prendre des rebonds, donc encore une fois il y a incohérence, parce que prenons l'exemple d'André Drummond, on voit que c'est quand même une question de taille, d'athlétisme, de savoir-faire, pas nécessairement de défense. Donc cette stat rentre dans le calcul, mais est-ce qu'elle devrait vraiment le rentrer dans le calcul? Je ne sais pas. Et au-delà de juste des rebonds, il y a plein de stats qui favorisent les pivots, et c'est vraiment un domaine dans lequel les statistiques peinent un petit peu justement à quantifier le niveau défensif. Si on prend un exemple concret, Nikola Jokic actuellement est le premier joueur de la ligue en defensive plus minus, en deuxième en defensive win share, deuxième en defensive raptor, deuxième en pourcentage de rebonds défensifs, et premier en value over replacement, qui est souvent cité pour choisir le Deep Boy. Il est partout, en fait. Et est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que Nikola Jokic est le Deep Boy?
Parce qu'il faut aussi regarder, il y a un truc qui est aussi important, c'est la capacité à défendre au sein de l'équipe. On le voit, par exemple, sur les dernières années, le Jazz a été une équipe qui a été plébiscitée sur un plan défensif. Et c'est pour ça aussi qu'un joueur comme Rudy Gobert a eu la possibilité d'avoir le Deep Boy. On sait que Rudy, c'est forcément un très bon défenseur, mais il y a aussi cette analyse à avoir, c'est que l'équipe des Nuggets n'est pas une très bonne équipe défensive, et c'est possible pour ça qu'on ne peut pas, enfin, mentalement, le donner à un joueur comme Jokic.
C'est ça, et puis du coup, il faut vraiment mettre, je pense, la grande majorité des stats, enfin, même toutes les stats, doivent être remises en contexte, sur le plan collectif. Il faut regarder les matchs, bien sûr. Il faut qu'il y ait un eye test. On ne peut pas tout faire au eye test, parce que personne ne regarde tous les matchs de toutes les équipes, en surveillant intensivement tous les défenseurs, etc. Mais ça a quand même une part importante, il faut mixer les deux. Et puis il faut peut-être valoriser certaines stats plus que d'autres, s'entendre sur le fait que certaines stats comme typiquement les rebonds du coup sont peut-être moins pertinentes que des stats comme disons bah effectivement le defensive rating de l'équipe qui apprend dans un contexte collectif, ou même le nombre de tirs contestés par match, qui pour moi est une statistique très intéressante, et justement dans laquelle Rudy Gobert est premier, Evan Mobley est troisième, et quand on regarde ces joueurs la défendre, on a l'impression qu'ils sont partout, et c'est une des rares stats qui retranscrit bien la réalité du terrain. En fait, il faut vraiment faire attention. Les stats valorisent beaucoup les pivots, mais des fois, c'est quand même vraiment à tort. Et du coup, tant que le vote est basé sur les stats et la réputation, les intérieurs, c'est logique qu'ils remportent le trophée de DPOY à l'heure actuelle.
Pour toi, Hugo, est-ce que tu es du même avis ? C'est-à-dire que est-ce que les statistiques rentrent trop en cause, dans, et forcément en ligne de compte, dans l'élection du DPOY ? Et pour élargir cette question, je voulais savoir un peu ton avis sur le profil des petits défenseurs. Est-ce que pour toi, un petit défenseur est assez reconnu dans la ligue ? Et forcément, Benjamin en parlait tout à l'heure, du fait de la mentalité des franchises de vouloir rechercher des profils polyvalents, on en a parlé forcément et tu en as parlé, Hugo. Mais est-ce que c'est un profil dans la tête de la ligue qui est assez reconnu ?
Alors, non, pour moi, il n'est pas assez reconnu. Et pour revenir un petit peu sur ce qui explique. Pourquoi les grands intérieurs sont plus plébiscités pour le titre de DPOY? Benjamin a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit un Rudy Gobert ou un Evan Mobley, par leur contestation de tir permanente, par leur aspect un peu tour de contrôle, on a l'impression qu'ils sont partout. Moi, j'aimerais juste dire que l'aspect visuel d'un défenseur, ça compte énormément. Et visuellement, c'est tout de suite plus parlant dans l'esprit des gens de voir un grand un peu en mode tour de contrôle qui conteste et qui compte des tirs. L'aspect un peu de contrôle de la raquette qu'un intérieur apporte, ça joue énormément. Ensuite, évidemment, les stats, ça joue, Benjamin l'a très bien expliqué, mais il y a quand même beaucoup d'incohérences. Après, pour revenir à ce que tu as dit sur les petits défenseurs, moi je trouve qu'ils sont pas assez valorisés. Par exemple, on parle rarement dans les discussions pour savoir, dans les courses au DPOY, du nombre de charges provoquées par exemple. Alors que c'est très souvent synonyme d'intelligence défensive, de timing, de placement, aussi de venir dans les aides. Mais donc voilà, pour moi, les petits joueurs ne sont pas assez reconnus. Et puis, de manière générale, les joueurs qui jouent sur la ligne extérieure.
Et justement, pour étendre avec la saison en cours, est-ce que, Hugo, tu serais capable en fait, de nous citer un extérieur qui est, selon toi, capable d'obtenir le trophée cette année? On sait qu'on a beaucoup parlé de Mikal Bridges, par exemple, comme l'un des joueurs à surveiller. La Ligue le met énormément en avant. Mais de ton côté, qui, selon toi, aurait les épaules pour remporter ce trophée cette saison?
Bah, je pense que tu l'as cité. Mikal Bridges, c'est vraiment peut-être le nom sur les lignes extérieures qui est le plus à même de remporter le titre de DPOY cette année. Il effectue un travail défensif phénoménal. C'est une des raisons, peut-être le joueur le plus important qui fait que les Suns ont la troisième meilleure défense de la ligue. Mikal Bridges, c'est un joueur très mobile qui a des bras extrêmement longs. Il peut défendre du poste 1 à 3 sans aucun problème. Il défend en mettant la pression sur l'homme, il gêne les lignes de passe. Il est vraiment indispensable à cette défense des Suns. Et puis il est considéré vraiment comme un spécialiste. Et ça rejoint un peu le côté réputation que Benjamin évoquait tout à l'heure. Le côté spécialiste, ça joue aussi beaucoup dans la tête des votants. Donc pour moi, Mikal Bridges est vraiment peut-être le nom sur les lignes extérieures qui est le plus à même de remporter ce titre de DPOY, oui.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a l'un des plus... Enfin, c'est le plus mauvais defensive rating depuis le début de sa carrière cette saison. Il a un box plus minus qui n'est pas non plus exceptionnel. Il a un value over replacement qui n'est pas non plus dans les plus dingues. Mais pourtant, il est quand même mis en avant. Est-ce que, selon toi, Hugo, je te laisse juste la balle avant de la passer à Benjamin, est-ce que pour toi, il n'y a pas aussi une question de se dire que les Suns font une bonne saison, mais il faut mettre quelqu'un à forcément dans une catégorie en fait, pour leur donner un trophée?
Bien sûr, bien sûr. Il y a de ça aussi. Après, si on s'appuie un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les stats, c'est bien. Mais il y a aussi ce côté, comme je l'ai expliqué, de l'aspect visuel. Mikal Bridges, il est partout. On le voit quand tu regardes un match des Suns, tu le vois que c'est un elite defender. C'est visuel, et ça, les stats, ça n'explique pas tout. Donc il y a cet aspect visuel qui est vraiment très important, et Mikal Bridges, il rentre clairement là-dedans.
Pour toi, Benjamin, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que Mikal Bridges est, selon toi, le joueur extérieur qui serait capable d'obtenir ce trophée cette saison?
C'est le seul pour moi cette saison qui est vraiment à même de le gagner. Je pense que Hugo, après tout dit, il est très versatile. C'est un bon stopper, c'est un défenseur intelligent. Il fait tout ce qu'il faut pour le collectif. Et au niveau des stats, en fait, ça s'explique aussi, ce plus-minus assez faible, etc. Parce que la seconde unité des Suns, justement, est excellente en défense, c'est une des meilleures de la ligue sur le plan défensif. Donc forcément, encore une fois, le contexte collectif est à prendre en compte. Et donc, se fier directement aux stats sans faire attention au contexte collectif, c'est très dangereux dans ce cas-là, parce que Mikal Bridges est un excellent défenseur, ça se voit, ça se sait, etc. Et puis comme tu l'as dit, effectivement, peut-être qu'il a un defensive rating un peu plus faible que ses saisons précédentes, mais je l'ai dit précédemment, la réputation compte. Et là, Mikal Bridges, Hugo l'a dit, s'est construit une réputation. Donc maintenant, il est dans la discussion pour le trophée de défenseur de l'année. On verra à l'avenir hein, si Saibul ou Okoro ou quelque chose entre dans la conversation. Mais aujourd'hui, il n'y a que lui qui peut vraiment parler avec les intérieurs pour le trophée de Depoy.
C'est vrai que pour rappeler sur cette saison, pour 64 matchs joués et à environ 35 minutes au moment où on se parle, de moyenne, il affiche 1,2 interceptions pardon, et 0,4 contre par match. C'est moins que Pat Beverley. Pat Beverley va sans doute réagir à notre podcast, ou peut-être Pat Beverley France. On l'espère que ce compte sera créé, ce compte Twitter. En tout cas, c'est assez... Forcément, c'est quelque chose... On va se poser la question sur ces prochaines saisons, parce que c'est vrai que le DPOY commence de plus en plus à peser, on va dire, dans la tête des petits défenseurs, c'est-à-dire... Est-ce que la Ligue sera capable de changer son fusil d'épaule dans l'attribution du trophée? Si on prend tous les mois, ils sortent, on va dire, une ladder, ce qu'ils appellent de la course au DPOY. En février, on était sur Giannis à la première place. On avait Mikal Bridges en deuxième, Jared Jackson en troisième. Et ensuite, ils avaient proposé 5, entre parenthèses, 6 noms, puisqu'il y avait Draymond Green, Rudy Gobert, Robert Williams, DeJounte Murray et Jared Allen et Evan Mobley. Donc potentiellement sur les 8 qui seraient cités, il n'y a seulement que 2 extérieurs, et comme l'a dit Benjamin et comme l'ont dit Hugo, pardon, comme vous l'avez dit tous les deux les gars, c'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement on sait comment ça va se passer, mais peut-être que la Ligue parviendra à prendre son courage à deux mains et de remettre enfin le trophée à un joueur qui le mérite tout autant qu'un intérieur. Le buzzer du carton retentit, je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Twitter pour la course au DPOY et surtout si, pour vous, les petits sont assez reconnus dans la Ligue. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bonne journée à vous. Salut !